Merci François pour la lecture. Je vous invite à garder vos Bibles ouvertes à Galates 4 ou à prendre le livret, avoir le texte devant les yeux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien, je suis l'un des membres de cette église et on est au milieu d'une série de prédications dans la lettre aux Galates, au tout milieu. Donc, si vous êtes un visiteur, n'ayez pas peur, on va faire un petit rappel de là où on est dans le livre. Mais on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à comprendre sa parole. Donc, je vous invite à prier avec moi pour commencer. On te prie, Seigneur, on te remercie pour cette lettre aux Galates qui est tellement pertinente aujourd'hui, tellement théologique, mais aussi tellement pratique. Et on prie, Seigneur, que le Saint-Esprit nous éclaire, que tu puisses ouvrir nos oreilles et nos cœurs pour t'écouter. Donne-moi les bons mots pour exprimer ta vérité d'une manière fidèle et claire, qu'on soit attentif et que tu puisses ouvrir, transformer notre intelligence, nos cœurs, nos vies. On prie au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous savez ce que c'est de ressentir les douleurs de l'enfantement? Évidemment, moi, je n'ai aucune idée. Mais j'étais quand même présent à la naissance de mes deux fils. Donc j'ai pu observer à quel point c'est douloureux. Je dois dire, les mères, il y a beaucoup de mères dans cette salle, vous êtes des héros. Cependant, les douleurs de l'enfantement, c'est pas inutile, c'est pas pour rien. On supporte quelques heures de douleur, ou quelques minutes si vous avez la chance. On supporte quelques heures de douleur, dans le cas de ma femme plutôt, quelques heures, parce qu'on a tellement envie d'accueillir le bébé. Enfin, j'ai dit quelques heures, mais en tant que parent, nous avons parfois l'impression que les douleurs de l'enfantement durent plus ou moins 18 ans. Élever un enfant est bien sûr l'une des plus grandes joies, mais c'est aussi l'un des plus grands défis. L'accouchement n'est que le début. On n'a pas seulement envie que l'enfant naisse, mais que l'enfant grandisse, apprenne, mûrisse, devienne au final un adulte stable, bienveillant, heureux. Et pour y arriver, tout dépend de quel message l'enfant écoute. Nous désirons ardemment que nos enfants nous fassent confiance, qu'ils écoutent nos bons conseils. Mais trop souvent, ils écoutent d'autres voix, des conseils malsains. Et on éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que nos enfants soient sur la bonne voie. La vie chrétienne est parfois un peu comme ça. Le moment où on devient chrétien, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, n'est que le début. On n'a pas seulement envie que les gens se convertissent, mais que les gens mûrissent, apprennent, deviennent stables, bienveillants, heureux dans leur foi. Et pour y arriver, tout dépend de quel message on écoute. On a tellement tendance à écouter les mauvaises voix et nous éloigner de Dieu. C'est comme si la douleur est constante. Et peut-être que vous ressentez en ce moment de nouveau les douleurs de l'enfantement dans votre marche avec Dieu. Ou peut-être que vous vous inquiétez pour un frère ou une sœur qui écoute les mauvaises voix en ce moment et qui s'éloigne de Dieu. C'est ainsi que Paul s'exprime à l'égard des Galates. Dans le verset 19, Paul nous dit précisément son but en écrivant ce passage. Il dit « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » On imagine qu'il a déjà ressenti les douleurs de l'enfantement la première fois qu'il leur a prêché l'Évangile. Mais Paul ne veut pas dire que les Galates doivent se convertir de nouveau, naître de nouveau. Ça, c'est pas possible. Une fois qu'on est chrétien, on ne peut pas perdre son salut et puis se convertir de nouveau. Non, ce qu'il désire, c'est que Christ soit formé en vous. C'est presque comme si Christ doit prendre forme en eux comme un bébé, quoi. Même si eux, ils sont passés par la nouvelle naissance, leur relation avec Christ est toujours au stade du fœtus. Ils sont loin d'une relation mûre et stable avec lui. Un peu comme Philippe nous a dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut pour un chrétien? On a besoin de grandir dans notre relation avec Christ. Et tout dépend de quel message on accueille. Au début, les Galates, ils ont accueilli le vrai évangile. Ils ont bien compris que le salut est par la foi seule, par Christ qui prend nos péchés à la croix, et non par nos propres œuvres. Mais maintenant, ils sont tentés d'écouter les faux enseignants qui leur disent que pour être vraiment accepté par Dieu, il faut être circoncis. Plus que ça, il faut obéir à la loi de Moïse comme moyen de se justifier devant Dieu. Et Paul répond dans le chapitre 5, donc on regarde un peu plus loin dans les livres, il dit « Vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Parce que personne, comme nous avons vu, personne ne peut se justifier devant Dieu par le moyen de leurs œuvres. Et donc, si les Galates acceptent ces choses, ils vont se priver de la grâce, de la liberté du Christ. Et Paul désire ardemment qu'ils accueillent de nouveau le vrai évangile. On voit ce même souhait dans le verset 12 au début. « Soyez comme moi, puisque moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. » L'ironie, c'est que lui, un juif, est devenu comme un non-juif parce qu'il sait qu'il n'est plus nécessaire d'observer la loi de Moïse pour être sauvé. Et ces chrétiens non-juifs essayent de devenir des juifs. C'est ironique. Et donc Paul dit « Soyez comme moi », c'est-à-dire il veut qu'ils croient comme lui que la justification n'est pas par la loi juive, mais par la foi seule. Il désire qu'ils vivent la vraie liberté en Christ, comme lui. En fait, ce verset 12 est le premier appel à l'action dans le livre et sert un peu comme résumé de son souhait pour toute la seconde moitié du livre. Après tout ce qu'il a dit jusque-là concerne le vrai évangile, le moment est venu de faire un choix. Est-ce que les Galates vont accueillir de nouveau le message de Paul ou le message des faux enseignants? Au final, est-ce qu'ils désirent accueillir plus fermement Christ et l'Évangile? Pas surprenant que Paul ressent de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce qu'il fasse le bon choix. Et mes amis, les mêmes questions s'adressent à nous. Après tout ce qu'on a vu jusqu'à là concernant le vrai évangile, le moment est venu de faire un choix. Est-ce qu'on va accueillir de nouveau le vrai évangile ou écouter les voix de ce monde? Au final, est-ce que nous désirons accueillir plus fermement Christ dans nos vies? On devrait tous, d'une certaine mesure, ressentir les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Est-ce que vous êtes plutôt dans une période d'instabilité, de tentation dans votre foi? Alors ne lâchez pas. Écoutez de nouveau les vrais évangiles. La lutte est douloureuse, mais ça vaut la peine. Est-ce que vous êtes plutôt un peu somnolent dans votre foi en ce moment? Faites ce que vous pouvez pour raviver le désir de grandir, de devenir plus ferme dans l'évangile. Ou est-ce que vous êtes plutôt stable dans votre foi? Ne pensez pas quand même que vous y êtes arrivé, mais cherchez toujours à grandir en Christ. Le souhait de Paul dans ce passage est donc ceci, que nous prenions au sérieux le besoin d'accueillir Christ et l'Évangile plus fermement, comme lui, il le fait. Mais pour accueillir le bon message, il faut accueillir le bon messager. C'est pourquoi Paul a déjà défendu son authenticité en tant qu'apôtre dans les chapitres 1 et 2 pour que les Galates lui fassent confiance. Et dans notre passage, il interrompt son argumentation théologique pour discuter de leur attitude envers leur messager. Paul sait à quel point notre attitude envers le messager est indissociable de notre attitude envers le message. Nous ne sommes pas des machines théologiques, nous sommes des êtres personnels, relationnels. Et dans la grande majorité des cas, on reçoit l'évangile dans le cadre d'une relation personnelle, d'une amitié. Il est plutôt rare que quelqu'un prend une Bible et se convertit en solitude, bien que ce soit possible, bien entendu. Il est plus probable que quelqu'un vous ait partagé l'évangile. C'était qui pour vous? Peut-être vos parents, peut-être un ami ou un collègue, peut-être un prédicateur dans l'église, peut-être un évangéliste dans la rue. Dans tous les cas, le caractère du messager et, si possible, la qualité de votre relation avec eux joue un rôle important. C'est pourquoi Paul rappelle aux Galates l'histoire de leur amitié. Vous voyez ça, verset 13. D'abord, il décrit comment c'était par le passé. Il commence « Vous ne m'avez fait aucun tort ». Même les meilleurs amis se blessent de temps en temps, mais ici, vraisemblablement, ils étaient sans reproche dans leur comportement envers lui. Paul donne un exemple concret dans le verset 13. « Vous le savez, ce fut à cause d'une maladie que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. » On ignore les détails, mais apparemment, Paul, il a dû rester dans la ville parce qu'il était malade et il a saisi l'occasion pour leur annoncer l'Évangile. La pertinence de cette remarque réside dans le fait qu'il était peu impressionnant. Il n'avait rien pour les attirer du point de vue humain. Cette maladie aurait pu tenter les Galates de rejeter Paul, mais ils n'ont témoigné ni mépris ni dégoût. Et non seulement ils ne lui ont pas fait du mal, ils lui ont carrément fait du bien. Il continue, « Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. » On ne parle pas ici d'une amitié superficielle. C'est pas juste comme s'ils se voyaient de temps en temps pour boire un verre, regarder un match de foot et échanger un peu de Jésus. Non, ils avaient accueilli Paul à bras ouverts, malgré sa maladie. Il l'avait traité comme Christ lui-même. Pas comme s'il était divin, bien entendu, mais avec chaleur, avec bienveillance, avec beaucoup d'attention. Et Paul va jusqu'à témoigner, verset 15, que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Et il se peut que cette remarque indique que sa maladie était un problème de la vue, mais plus probable, il s'agit d'une expression hyperbolique pour souligner la profondeur de leur amour pour lui. En français, on dit, je crois, je donnerai ma chemise, ça se dit en français, je donnerai ma chemise. Ouais, chemise ou les yeux, il me semble que les Français sont moins généreux que les Galates, mais bon. Mais en tout cas, ils étaient prêts à tout pour lui. Et cet esprit de sacrifice est le signe d'une amitié profonde. Et cette histoire illustre que leur attitude envers le messager dit tout sur leur attitude envers le message. Ça va dans les deux sens, j'explique. Si on accueille le messager, on est plus disposé à accueillir le message. On imagine par exemple qu'ils étaient attirés par son caractère, par son amour pour eux. Ils avaient pu voir au-delà de son apparence peu impressionnante. Et ça les a certainement rendus plus disposés à écouter son message. Pensez de nouveau à la personne qui vous a partagé l'évangile pour la première fois. Il y a de très bonnes chances que vous ayez été attiré en premier lieu par son caractère, par son amour. Je pourrais sortir plein d'histoires pour illustrer cela, mais je pense en premier lieu à l'histoire de ma belle-mère. Issue d'une famille carrément antichrétienne, elle est arrivée à l'université sans aucun intérêt pour l'évangile. Et là, elle a rencontré, en faisant la lessive, je crois que ça c'est l'histoire, elle a rencontré deux filles chrétiennes. Et elle était frappée autant par leur joie et leur authenticité que par leur gentillesse. Et en temps utile, ces filles lui ont expliqué l'évangile et a donné sa vie à Jésus. Vous voyez, Dieu se sert de l'amitié et de l'amour de ses messagers pour préparer le cœur pour recevoir l'évangile. Et ça marche dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire, une fois qu'on a accueilli le message, on n'est plus disposé à accueillir le messager. Paul évoque le bonheur que les Galates ressentaient, verset 15, comme explication pour leur bienveillance. Leur bienveillance envers Paul était une réponse à l'évangile. Ils avaient trouvé le vrai bonheur dans la grâce de Dieu. Et quand on se sait béni par Dieu, on veut bénir les autres. Quand on est captivé par le sacrifice de Jésus pour nous, on veut se sacrifier pour le bien des autres. Je pense que l'Évangile inspire naturellement un amour particulier pour celui qui vous a annoncé l'Évangile pour la première fois. Est-ce que vous pouvez penser à un enseignant à l'école qui vous a vraiment inspiré? Quand moi j'avais 16 ans, mon professeur préféré était en fait mon prof de français. Vous allez peut-être me dire qu'il n'a pas fait un très bon travail. Mais ce prof, il était non seulement un très bon enseignant, il avait une manière chaleureuse, il s'intéressait à nous, il savait communiquer à notre niveau, et donc il a gagné notre confiance, même notre amitié jusqu'à un certain point. Et on était donc plus disposés à écouter attentivement ses enseignements. Je dirais qu'en grande partie, grâce à lui, j'ai appris à apprécier la langue française. Et une fille dans ma classe était tellement inspirée par ses leçons qu'elle a nominé ce professeur pour un prix national, l'enseignant de l'année. Et il a gagné. Et donc, il était officiellement le meilleur enseignant en Angleterre pour une année. Et donc cette belle dynamique, c'est ce que nous voulons voir à l'œuvre chez les chrétiens. L'amitié de celui qui nous enseigne nous rend plus disposés à accueillir l'évangile. Et dans l'autre sens, en retour, l'évangile nous inspire à honorer celui qui nous a enseigné. Malheureusement, les choses ne se sont pas restées ainsi entre Paul et les Galates. Paul continue verset 16. « Suis-je devenu votre ennemi ?» C'est choquant. Ces Galates qui étaient prêts à arracher leurs yeux pour lui le traitent maintenant comme un ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore une fois, on voit que leur attitude envers le messager dit tout sur leur attitude envers le message. Le changement dans leur attitude envers Paul a manifestement eu un impact sur leur attitude envers l'Évangile. Influencés par les faux enseignants, ils sont devenus méfiants, ils ont perdu leur confiance à l'égard de Paul et donc aussi leur confiance envers l'Évangile. Voici un avertissement pour nous. Ne laissez pas votre amitié avec vos enseignants se dégrader. Ne laissez pas votre confiance en eux s'éroder. Je ne dis pas qu'on devrait leur faire confiance sans question. Ils peuvent faire des erreurs. Moi, je peux faire des erreurs. Il faut peser ce que les enseignants disent à la lumière des Écritures. Mais si vous avez trouvé un prédicateur ou bien un ami qui vous dit la vérité et qui témoigne d'un vrai amour envers vous, il ne faut pas abandonner cette amitié et cette confiance. C'est important. Et encore une fois, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire, le changement dans leur attitude envers l'Évangile a manifestement eu un impact sur leur attitude envers Paul. C'est pourquoi ils demandent « Où donc est l'expression de votre bonheur ?» Ils semblent avoir perdu leur bonheur en Christ et donc leur amour pour Paul s'est refroidi. C'est ce qui se passe quand on commence à essayer de se justifier devant Dieu par nos propres efforts. On perd la joie d'être sauvé. On perd la liberté pour servir Dieu de tout cœur. On perd l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Paul leur demande, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Est-ce qu'ils sont devenus méfiants à l'égard de Paul ? Précisément parce qu'ils n'ont plus envie d'entendre l'Évangile. Si nous, on commence à se méfier à l'égard d'un prédicateur de l'Évangile ou bien un ami fidèle, il faut peut-être se demander si on n'a plus envie d'entendre la vérité. Si nos enfants vont mûrir et devenir stables en tant qu'êtres humains et aussi en tant que chrétiens, il faut qu'ils aient une bonne relation avec des personnes de confiance, en premier lieu leurs parents, bien entendu. Je connais un couple qui fait des efforts remarquables pour investir dans leurs enfants, pour faire des petits gestes d'amour, pour passer du temps envers chaque enfant. Et sans aucun doute, ça aide les enfants à leur faire confiance, à prendre au sérieux leurs conseils, à devenir un jour des adultes stables, et on espère aussi des chrétiens stables. Et nous, si on veut devenir plus mûrs et stables dans notre foi, on a besoin de nourrir des amitiés avec des frères et sœurs, et surtout avec des enseignants qui nous aiment et qui nous disent la vérité. Très, très souvent, les gens s'éloignent de l'Évangile parce qu'ils n'ont plus de relations significatives avec d'autres chrétiens. Nous ne sommes pas une église parfaite. Nous qui enseignons, on fait des erreurs. Il faut peser notre enseignement à la lumière de la parole. Mais je sais que les enseignants, ici, essaient par la grâce de Dieu de vous dire la vérité et de vous aimer. Ils sont peut-être peu impressionnants, mais il faut apprendre de les connaître. Et je sais que cette église, cette salle est remplie de frères et sœurs qui se disent la vérité mutuellement, qui s'aiment mutuellement. Ces amitiés nous aident à accueillir plus fermement l'Évangile. Et l'Évangile nous inspire à son tour à aimer nos frères et sœurs. Fréquentez, si possible, un groupe de quartier, pas cette semaine, mais la semaine suivante. C'est précieux pour nourrir des amitiés, surtout avec ceux qui enseignent. Pourquoi pas inviter les gens chez vous? Passer du temps ensemble afin de grandir en amour les uns pour les autres et en confiance mutuelle. Au minimum, rester après le culte, et non seulement pour parler à propos du foot ou de la météo, mais pour échanger sur notre foi et sur nos vies. Ça vaut également la peine d'investir dans des relations avec des chrétiens dans d'autres églises, bien entendu. Et si vous avez été béni par l'Évangile, saisissez les occasions pour bénir les autres, et en particulier pour soutenir ceux qui vous enseignent. Dans le chapitre 6, Paul dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Donc c'est naturel de vouloir soutenir un ministère par lequel on a été béni. Ça pourrait vouloir dire offrir des mots d'encouragement à celui qui vous enseigne, ou les soutenir d'une manière pratique pour qu'ils puissent se consacrer au ministère de la parole, ou donner de l'argent pour soutenir le ministère de l'Église. En résumé, notre attitude envers le messager est indissociable de notre attitude envers le message. Si cela est vrai en ce qui concerne les messagers du vrai évangile, c'est aussi le cas en ce qui concerne les messagers du faux évangile. Les problèmes des Galates étaient non seulement leur relation avec Paul, mais leur relation avec les faux enseignants. Verset 17. « Le zèle qu'ils ont, les faux enseignants, en ont pour vous, n'est pas bon, mais ils veulent vous détacher. » C'est ambigu de Paul, de l'Évangile, peut-être, « afin que vous soyez zélés pour eux. On imagine qu'ils étaient très aimables, très charismatiques. Ils donnent l'impression de se soucier pour les Galates. Ils flattent probablement les Galates. Et les aident à se sentir bien dans la peau, on imagine. Au premier regard, le zèle ressemble peut-être à l'amour dont Paul a fait preuve. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Ils ne proclament pas le vrai évangile et la motivation ne sont pas saines non plus. Ils ne sont pas zélés pour le bien, mais pour leur propre gain. Ils veulent les détacher de Paul, de l'évangile, afin que les Galates soient à leur tour zélés pour eux. Autrement dit, ils veulent ramasser les adeptes fidèles pour leur propre honneur, leur propre gloire. Et le bien des Galates ne leur intéresse pas vraiment. Ce n'est pas le zèle en soi qui est un problème. Au contraire, Paul clarifie qu'il est bon d'avoir du zèle pour le bien en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Il veut dire peut-être que les Galates devraient faire preuve d'un zèle, non pas pour les faux enseignants, mais pour le vrai évangile, comme il le faisait par le passé, quand Paul était présent. Ou il fait peut-être référence à son propre zèle pour le bien, qui est toujours aussi fort maintenant qu'il est absent. Je favorise cette option parce que par la suite, il évoque en effet à quel point il se soucie d'eux, même s'il est actuellement absent. Et donc Paul veut probablement mettre en évidence le contraste entre le zèle mal placé des faux enseignants et son propre zèle. Le zèle pour sa propre gloire est à rejeter, mais le zèle pour bénir les autres est bien sûr à rechercher ardemment. Encore une fois, parce que les Galates sont impressionnés par les messagers, ils sont plus disposés à écouter leur message. Et Paul, lui, il est incrédule, il est angoissé. Au départ, ils avaient accueilli le bon message pour les bonnes raisons et ils ont fini par croire le vrai évangile. Et puis, ils ont fait demi-tour, impressionnés par les mauvais messagers, pour les mauvaises raisons, ils risquent de croire le mauvais message. Vous vous rappelez peut-être l'histoire triste de Anakin Skywalker dans les films de Star Wars, La Guerre des Étoiles. Ce n'est pas que moi qui connais les films. Hein. Formé pour être un Jedi, un gardien de la paix et la justice, Anakin tombe sous l'influence du côté obscur et finit par devenir le grand méchant Dark Vador. Et qu'est-ce qui l'amène à faire demi-tour? Vous vous rappelez peut-être l'histoire, c'est l'amitié de l'empereur de la galaxie. Et dans le film, personne ne sait que l'empereur est en réalité le chef du côté obscur. Et de petit à petit, l'empereur gagne la confiance et l'amitié de Anakin. Il donne l'impression de se soucier de ses problèmes. Il frotte son ego. Et en même temps, il sème des mensonges et des idées malsaines. Et son but final, que Anakin plie le genou devant sa seigneurie et rejoigne le côté obscur. C'est ce qui se passe à la fin du troisième film. C'est comme ça que les charlatans fonctionnent. Ne soyons pas naïfs. Le monde est malheureusement rempli de faux enseignants. Ils viennent au nom de Christ. Ils font semblant de se soucier de nous. Ils frottent notre ego, ils gagnent notre confiance. Mais leurs motivations sont malsaines et leur message est tordu. Il est peu probable que vous ayez une amitié en ce moment avec un faux enseignant. Mais vous avez probablement regardé des vidéos sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Il faut faire très attention à qui vous regardez. Ne soyons pas naïfs. Tout le monde n'est pas digne de confiance. Ces faux enseignants, ils essaient de gagner votre confiance par leur charisme, par leur promesse de bonheur, par leurs paroles flatteuses. Et sans s'en rendre compte, on commence à croire leur message. Il y a des exemples flagrants comme les prédicateurs de l'Évangile de la prospérité. Je nomme Joel Osteen, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Todd White, qui ont séduit et aguerré des multitudes. Vous avez peut-être vu quelques-unes de leurs vidéos. Mais il existe ceux qui sont un peu plus subtils, parfois même respectés dans notre milieu évangélique. Je nomme un exemple, le ministère de Bethel, qui attire des foules par leur musique, très belle musique d'ailleurs, mais qui prêche un faux message, un message tordu. Fais attention. Et ce n'est pas impossible que ça vous arrive en personne. Si vous rejoignez une autre église à l'avenir, par exemple, il y a des églises à Bruxelles. Je sais qu'il y a des gens dans cette salle qui connaissent des églises à Bruxelles, dirigées par des leaders charismatiques dans le sens de personnalité, quoi, qui attirent des foules, mais qui prêchent un message tordu. Comme les Galates, nous avons expérimenté le bonheur de l'Évangile. Nous avons probablement bénéficié de l'amour d'un messager fidèle. Et pourtant, les Galates sont sur le point de jeter tout ça pour accueillir les charlatans et leur faux Évangile. On devrait sentir le danger de loin. On devrait reconnaître la fausseté, le mensonge. On devrait... Et pourtant, ça arrive, hein, ça arrive. Parce que prenant que Paul crie verset 20, « Je voudrais être maintenant présent parmi vous et changer de langage, car je suis dans l'embarras à votre sujet. » Parce que prenant qu'il est si perplexe, mais s'il peut rétablir sa relation avec les Galates, est-ce que ça les aiderait à revenir au vrai évangile? Est-ce qu'ils peuvent se libérer de l'emprise des faux enseignants et leur faux évangile? Est-ce qu'ils peuvent de nouveau faire confiance à Paul et au vrai évangile? Si vous êtes sous l'emprise des charlatans et de leurs mensonges, il est impératif que vous faites demi-tour et reveniez au vrai évangile. N'ignorez pas les conseils de vos amis chrétiens, surtout ceux qui vous enseignent le vrai évangile. S'ils sont au courant de votre danger, ils sont probablement perplexes et angoissés à votre sujet. Ne négligez pas leur amitié en faveur des attentions des charlatans. N'ignorez pas leur plaidoyer en faveur d'un message séduisant. Et si vous n'êtes pas en danger grave, comme je l'espère être le cas pour la plupart d'entre nous, exercez quand même du discernement à l'égard des divers enseignements qui existent en ligne et dans les églises. Ne soyez pas naïfs quand les gens vous chatouillent les oreilles et caressent votre égo. Et si un frère ou une sœur est en danger de suivre un faux enseignant, quelqu'un avec qui on avait une bonne amitié par le passé, qui était enthousiaste par rapport à l'Évangile, mais qui est attiré tout d'un coup par un faux Évangile et qui coupe peut-être le contact. Et on ressent la perplexité de Paul, on ressent de nouveau les douleurs de l'enfantement à l'égard de cette personne. Cependant, il y a des choses qu'on peut faire. On peut essayer de nourrir l'amitié dans l'espoir qu'on regagne la confiance de cette personne. Il faut oser peut-être dire à la personne qu'elle est sur la mauvaise voie. Il faut bien sûr lui rappeler de nouveau le vrai évangile. Et si vous exercez un rôle d'enseignement ou de leadership dans l'église, comme nos anciens ou les diacres ou les animateurs des groupes de quartier, vous avez une responsabilité particulière à cet égard, quoique ça peut être particulièrement pénible quand les gens s'éloignent de l'Évangile. Il faut le reconnaître. On est peiné parfois. Ce n'est pas toujours facile de savoir comment, quoi faire, que faire et à quel point il faut persister ou s'il faut lâcher. Mais nous tous, on peut jouer un rôle pour garder nos frères et nos sœurs sur le bon chemin. Si vous essayez d'aider quelqu'un en ce moment, pourquoi pas en parler avec l'un des responsables de l'Église. Et dernièrement, prions. Prions pour nous-mêmes, les uns pour les autres, et surtout pour ceux qui sont en danger, que l'on écoute les bons messagers, que l'on croit le bon message, que Christ soit formé en nous, toujours. plus. Prions. Seigneur, on désire que Christ soit formé en nous, que l'on soit en danger de croire un faux évangile, que l'on soit peut-être un peu tiède dans notre foi, ou que l'on soit plutôt stable, Seigneur, que nous ressentions ces douleurs de l'enfantement jusqu'à Christ soit formé en nous de plus en plus jusqu'à la fin de nos vies, que l'on ressente cela pour nous-mêmes et pour nos frères et nos sœurs, que nous n'écoutions pas les faux messagers et le faux évangile, mais que nous puissions nourrir nos amitiés, notre confiance dans des frères et des sœurs dignes de confiance qui sont prêts à nous dire la vérité. Que nous n'abandonnions pas cette assemblée. Aide-nous, Seigneur, à écouter les bonnes voix et à grandir toujours en Christ. Et on prie au nom de Jésus. Amen.